Les parachias de Tazria Metzora comptent sans doute parmi les plus déconcertantes de toute la Torah. Pour le lecteur contemporain, elles produisent d'abord un effet d'étrangeté presque radical. On y rencontre une succession minutieuse de règles sur l'impureté, la séparation, l'offrande, la réintégration, sans que le texte ne nous livre immédiatement des catégories qui permettraient d'en saisir l'unité profonde. À première vue, cette paracha donne presque l'impression d'un manuel juridique, une suite de qualifications, de procédures, de statuts, comme si toute singularité humaine avait été retirée du texte, comme si la Torah ne parlait plus ici de personne, mais seulement de cas. Tout semble d'abord relever d'une casuistique sèche, presque fermée sur elle-même. Plus on cherche à y trouver d'emblée une cohérence morale, explicite, plus cette cohérence paraît se dérober. Et pourtant, si ces parachiotes résistent tant à la lecture, c'est peut-être justement parce qu'elles cherchent moins à nous transmettre un enseignement moral immédiatement disponible qu'à nous obliger à penser autrement certaines expériences humaines fondamentales. Il serait certes possible de résoudre rapidement cette difficulté en mobilisant la lecture rabbinique classique, celle qui notamment associe Metzora à Motsira, celui qui fait sortir le mal par sa parole. Cette lecture est puissante, effectivement. Elle ouvre une réflexion profonde sur la parole, le lien social, la capacité du langage à blesser, à exclure et à défaire une communauté. Et il ne s'agit certainement pas de la disqualifier, mais elle ne doit pas nous dispenser d'un retour au texte lui-même. Car ces parachiotes ne parlent pas seulement de morale du discours, elles organisent plus largement une pensée des seuils, entre vie et mort, entre dedans et dehors, entre pureté et réintégration, entre l'existence individuelle et l'ordre collectif, entre l'expérience charnelle et la proximité du sanctuaire. Le début de Tazria traite de l'enfantement. La vie surgit, mais cependant elle est immédiatement accompagnée d'un régime de séparation, d'attente et éventuellement de purification. La fin de Metzora, quant à elle, s'achève sur un avertissement grave. L'impureté laissée sans traitement peut conduire à la mort lorsqu'elle vient souiller le Mishkan, lorsqu'elle vient souiller le sanctuaire. L'ensemble est donc encadré par deux pôles. D'un côté, la mise au monde, de l'autre, la menace mortelle. Cette architecture, pour moi, n'est pas secondaire. Elle suggère déjà que l'enjeu de ces parachiotes n'est pas simplement réglementaire. Entre l'apparition de la vie et la menace de la mort, la Torah vient cartographier les zones les plus fragiles de l'existence humaine, celles où l'homme fait l'épreuve d'une intensité telle qu'elle requiert d'abord une séparation, ensuite une traversée, puis éventuellement un retour. Et c'est peut-être là que se trouve l'unité profonde de ces parachiotes. Elles ne décrivent pas simplement des états rituels disparates, elle dessine une véritable géographie spirituelle de l'existence humaine dans ses points de vulnérabilité maximale. Car la vie, précisément parce qu'elle est puissante, peut aussi exposer à une forme de désordre. Non pas nécessairement au sens moral immédiat du terme, mais au sens d'une perturbation de l'ordre juste, d'un bouleversement qui appelle médiation, mise à distance et éventuellement réinscription. Tazria et Metzora enseignent ainsi qu'il n'existe pas d'expérience purement privée dès lors qu'elle engage le corps, la sexualité, la naissance, la parole ou la mort. Ce que nous serions tentés de tenir pour relevant de l'intime est constamment réinscrit dans un ordre plus vaste, celle du camp, du sanctuaire et de la présence divine au milieu du peuple. La Torah biblique ne nie pas l'intériorité. Elle refuse simplement qu'elle constitue un monde autosuffisant. L'intime existe, mais il n'est pas souverain. C'est pourquoi la purification ne s'accomplit jamais dans la seule intériorité. Elle suppose des gestes, un temps, une médiation sacerdotale et parfois une offrande. Le Kohen n'intervient pas ici comme simple technicien du rite. Il marque le fait que certaines expériences humaines ne retrouvent leur juste place qu'à travers une réintégration ordonnée dans l'espace commun d'Israël. Plus encore, le texte ne confie jamais au médecin le soin de définir le statut de l'homme atteint, mais au prêtre, c'est-à-dire celui qui a la charge du culte, du sanctuaire et de l'identité commune d'Israël, de l'identité religieuse du peuple. Ce détail est décisif. Il montre que l'enjeu premier n'est pas clinique, mais cultuel. Non pas d'abord celui d'un diagnostic médical, mais celui d'une qualification, touchant à l'appartenance, à la séparation et aux conditions du retour dans l'ordre commun. La femme qui enfante en offre un exemple décisif. Effectivement, rien n'est plus lié à la vie que la naissance. Et pourtant, elle est suivie d'un temps de séparation puis d'une offrande. La difficulté est donc réelle. Pourquoi ceux qui participent si directement à la continuité du peuple appellent-ils encore à une forme d'expiation ? Pourquoi ce qui répond à l'une des premières bénédictions de la Torah doit-il être suivi d'un processus de retrait puis d'un retour ? On peut avancer ici une hypothèse de lecture profonde. La naissance est aussi un moment de concentration extrême de l'existence sur le cercle plus intime d'une personne, celui du corps, du lien familial, de la transmission, de la lignée. La Torah ici ne nie pas cette intensité, mais elle refuse qu'elle demeure renfermée sur elle-même. Elle impose un passage, un temps de séparation dans lequel l'événement est d'abord éprouvé dans sa portée la plus intime, la plus singulière, avant d'être finalement reconduit vers l'ordre plus vaste de l'Alliance. La séparation n'a donc pas ici pour seule fonction d'éloigner. Elle paraît aussi ménager un temps dans lequel l'individu peut traverser pleinement l'expérience dans ce qu'il a de plus propre avant d'en éventuellement organiser le retour vers l'ordre commun. La Torah ne supprime pas l'intime, elle en ordonne le passage vers le collectif. La figure du Metsora, la figure centrale de cette paracha, de ces parachiotes, permet aussi d'approfondir encore cette logique. Car ici, ce n'est plus seulement un acte ou un événement ponctuel qui introduit cette séparation, mais une atteinte qui semble se propager à tous les recoins de l'existence. La marque apparaît sur la peau, mais elle peut aussi atteindre le vêtement jusqu'à la maison. Et ce détail est décisif, car il ne s'agit plus simplement d'une altération localisée du corps, c'est l'ensemble de l'environnement humain qui semble être saisi. Ce qui couvre l'homme, ce qui l'abrite, ce qui l'expose au regard d'autrui. Comme si l'individu était désormais rejoint dans ce qui le constitue, l'entoure et le représente au monde. Son corps, ses habits, son espace de vie portent ensemble le signe d'une vulnérabilité qui ne peut plus être dissimulée. La tzara'at met ainsi l'être humain face à sa fragilité, non d'abord comme membre de la communauté, mais comme individu qui est atteint dans sa singularité même. Elle dévoile quelque chose de total. La peau est marquée, le vêtement est marqué, la maison est marquée. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'organisme qui est atteint, c'est une manière d'être au monde qui se trouve exposé. Dès lors, la mise à l'écart du Metsora ne doit pas être comprise seulement comme une punition. Elle peut aussi se lire comme l'ouverture d'un espace dans lequel l'individu, soustrait au regard des autres, est contraint de se tenir face à lui-même. Le retrait, dans cette perspective, n'est pas ici une négation de la personne, mais condition d'une confrontation plus nue avec sa propre vulnérabilité. Avant de retourner vers le camp, avant la réintégration dans la communauté, il faut d'abord cette traversée de soi, cette épreuve de vérité où l'homme ne peut plus se dissimuler, ni derrière le groupe, ni derrière les apparences. Et c'est peut-être à cette condition qu'une réintégration véritable devient possible. car la communauté d'Israël n'est pas une foule où la responsabilité se dissout elle-même, se dissout, où elle est une alliance de sujets tenus de répondre premièrement d'eux-mêmes. La compréhension de soi, surtout dans les moments les plus durs et les plus intimes, n'a donc rien d'un détour individualiste. Elle est ce qui rend possible une appartenance juste au collectif. Loin d'autoriser chacun à s'abriter derrière la responsabilité commune, la Torah paraît exiger une communauté composée d'individus capables d'assumer pleinement leur part devant les autres et devant Dieu. La solitude imposée n'a donc pas pour finalité de détacher durablement l'homme du collectif, mais de le rendre à celui-ci autrement, c'est-à-dire plus vrai, plus lucide et plus responsable. Mais ce cheminement personnel, si nécessaire soit-il, n'est pas en lui-même un état achevé, car il expose aussi l'homme au risque du repli, à la tentation de se renfermer dans sa propre sphère, au point de se détacher, ne serait-ce qu'un temps du destin commun. Sous cet angle, ces figures de retrait portent une ambiguïté spirituelle. L'individu doit passer par lui-même, mais il ne peut s'y installer. Celui qui se sépare du tzibour, dans la logique du poresh mina tzibour, manque quelque chose de l'ordre juste de l'alliance. Et la Haggadah de Pessah, lorsqu'elle décrit celui qui se retranche du collectif, le rapproche d'une forme de kofer baïkar, quelqu'un qui dénie le centre même du judaïsme et de l'idéologie juive. Non parce que toute intériorité serait déjà une révolte, mais parce qu'une existence qui se renfermerait durablement sur elle-même finirait par manquer l'un des fondements de la vie de l'Alliance. Appartenir à un peuple, partager un destin et se tenir dans une responsabilité commune. C'est pourquoi le retour ne peut demeurer purement intérieur. Il doit être marqué, objectivé et inscrit rituellement. L'offrande ne vient pas simplement clore un état d'impureté. Elle signifie la rentrée d'un individu dans le giron communautaire, sa réinscription visible dans l'ordre du sanctuaire, du peuple et de l'Alliance. Ce qui avait été vécu dans la solitude doit aussi retrouver sa juste place au sein du collectif, non par effacement de l'insingularité, mais par son ordination à une vie commune sous le regard de Dieu. L'offrande dit alors quelque chose de très fort. Il ne suffit pas d'avoir traversé une épreuve. Encore faut-il réapprendre à habiter le monde commun. Le temps de retrait mandaté dans cette paracha n'a donc pas pour fonction d'humilier, mais de médiatiser. Il ouvre la possibilité d'un retour juste, retour vers le camp, retour vers le sanctuaire, retour vers une vie commune, ordonnée par la présence de Dieu. Il y a donc dans ces parachiotes une pédagogie exigeante. L'homme doit parfois être séparé pour apprendre ce qu'il vit vraiment, mais il doit ensuite revenir afin que cette vérité acquise dans la solitude ne demeure pas close sur elle-même et soit offerte à la communauté sous une forme ordonnée, responsable, réconciliée. La clôture de la paracha permet alors de saisir la gravité ultime de l'enjeu. Lorsque le texte associe l'impureté à la mort, il ne s'agit pas nécessairement de lire celle-ci d'abord comme une mort physique. Dans la logique ici déployée, cette mort peut se comprendre plus profondément, c'est-à-dire comme une mort spirituelle, la condition d'un homme séparé du sanctuaire, éloigné de la présence divine, retranché de l'espace commun, où Israël se constitue comme klal, comme peuple. Mourir dans son impureté, ce serait alors demeurer prisonnier d'un état sans retour, d'une séparation devenue définitive, d'une existence qui ne peut plus être réordonnée au collectif ni réinscrite dans l'Alliance. La mort dont il est ici question n'est donc pas seulement la fin biologique, elle est la catastrophe d'une non-réintégration. Le message devient alors beaucoup plus clair. La Torah ne laisse pas les moments les plus intenses de la vie ou de l'existence humaine se renfermer sur la seule sphère privée. Elle les soumet à une pédagogie du retrait et du retour, afin que la vie, même dans ce qu'elle a de plus intime, soit reconduite vers l'Alliance, le sanctuaire et le peuple. Tazria et Metzora ne sont donc pas seulement des parachiotes de l'impureté. Elles sont des parachiotes de la réarticulation. Elles enseignent que l'être humain ne devient pas juste en niant son intériorité, mais en refusant qu'elle soit son dernier horizon. Il doit passer par elle, la traverser, la comprendre, puis la reconduire vers le plus grand que lui. Autrement dit, la Torah reconnaît la singularité, mais refuse la souveraineté du privé. Elle ménage un chemin pour que l'épreuve, même la plus personnelle, devienne finalement matière à réinscription dans le destin commun d'Israël. Shabbat Shalom.